Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette émission du week-end. Vous le savez désormais, Good Luck, c'est tous les jours de la semaine en direct entre 13h et 15h. Et le week-end, je retrouve enfin mon acolyte de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Et cette semaine, Emmanuel, on chausse les baskets. Ah non, plus exactement, les sneakers. Parce qu'on sait désormais, ils sont devenus un élément de luxe, mais aussi carrément parfois des œuvres d'art. C'est en tout cas ce que souhaite montrer l'exposition Sneakers, objet de désir qui vient de s'ouvrir au Crédit Municipal de Paris. Nous en parlerons dans un instant avec Jean-Marc Depel, Maker, co-commissaire de l'exposition, avec l'expert Max Limol. Il est auteur de Culture Sneakers, les 100 baskets mythiques, avec également une collectionneuse, Amel Méniche, auteur de Sneakers par Ugly Melly. Et puis avec un petit nouveau sur cette planète Sneakers, c'est Thierry Thau, fondateur de la marque de Sneakers Lumène. Mais pour l'heure, ce sont les nouveautés de la semaine.
Good de Luxe Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et Emmanuel, on commence tout de suite, bien sûr, avec la table de la semaine. Salé.
Salé, plutôt iodé.
Ah ouais.
Ça s'appelle Salt. Alors Salt, ça rebondit sur une double tendance. D'abord, c'est certainement l'un des bistrots qui fait parler le plus de lui cet automne, et c'est justifié. Double tendance, pourquoi? D'abord parce que on est là un petit peu dans la nouvelle vague de l'iode. La nouvelle vague de la nouvelle vague, c'est-à-dire qu'après la bistronomie, on arrive à une sorte de bistrot marine. C'est vrai qu'on a vu tout un tas d'adresses dont on a déjà parlé, comme le Marais Jeanne du côté de Montorgueil, comme La Marée, dont on parlera bientôt. Toute cette jeune garde qui s'amuse un petit peu à retravailler la cuisine poissonnière. Deuxième tendance forte chez Salt, c'est qu'on a beaucoup parlé ces dernières saisons, vous savez, de ces chefs japonais qui cuisinaient très frenchy. Et bien là, c'est un petit peu la new British food qui est en train de prendre le pas sur Paris. On a parlé déjà du rosemary, on a parlé du semilla. Et là, c'est aux commandes deux Anglais plus une Australienne qui orchestre une table, justement, tout à la fois très marine, très bistrotière, donc très parisienne, et dans le même temps, très anglo-saxonne. Trois plats pour s'en convaincre. Saint-Jacques rôti avec un porridge, mais le porridge travaillé au persil et au sarrasin. Le lieu noir brocoli avec un lait battu au coco de Paimpol. Là aussi, il y a cette petite touche anglo-saxonne qui va jouer sur les aigres doux, sur le sucré salé. Et puis alors, j'allais dire en dessert, on sort un petit peu du côté marin, mais bavarois de Stilton, et tout est dit, avec du chou-fleur.
Bavarois de Stilton,
très réussi. Très réussi. Alors, c'est vrai qu'en termes de dessert, ça déroute un peu, mais je vous rappelle qu'en Angleterre, on mange et on déguste le fromage après le dessert. Donc là, ils ont fait une synthèse parisiano-londonienne où on va mixer les deux. Bavarois, Stilton, chou-fleur. Le Stilton, c'est une pâte persillée, mais il y a un petit côté sucré si on le travaille bien. Ça fonctionne. Très joli bistrot, menu 19-23 euros. On peut pas se plaindre.
Salt, c'est rue Roche-Brune dans le 11e arrondissement de Paris. Je vous emmène, moi, dans le 3e arrondissement de Paris, dans une nouvelle boutique, du musée Picasso, une boutique-librairie, parce que bien sûr, il y a beaucoup de bouquins, comme dans toutes les boutiques de musées, mais pas seulement. On est donc 4 rue de Torigny. On est véritablement dans un concept store parisien, avec aussi des arts de la table, des bijoux, de la décoration, du design. Il y a de très beaux carnets, notamment, et puis une collection d'assiettes de Guillaume Delvigne pour Marc de la Doucette, collection Cheval et Dompteur, qui permet de faire une sorte de puzzle assez très fin, comme ça on retrouve ce tracé de Picasso. Il y a Boris Klimek aussi qui fait des suspensions Nightbirds hyper poétiques. Encore une fois, une boutique où il faut aller traîner juste avant Noël, où vous trouverez plein d'idées cadeaux. Il y a vraiment des jolies choses. On rappelle l'exposition Picasso Mania qui n'est pas au musée Picasso en ce moment, mais voilà. Une nouvelle
manière.
Moi, je
trouve ça plutôt réussi. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'on a l'impression que les gens rebondissent sur le maître, sur le génie Picasso. Ils font du marketing, du business autour. Il y a certainement un peu de ça. Mais ils sont entourés d'artistes et de créateurs qui, justement, rendent plus hommage. Les objets sont très réussis. Et puis, faut pas oublier que Picasso était pas le dernier à faire du business. Et c'est vrai que d'ailleurs, tout son travail autour des arts de la table, de Valoris, qu'on peut voir dans des musées comme Serret, du côté du pays catalan, on voit bien que c'est quelqu'un qui avait déjà une réflexion au-delà de la simple toile. Donc, moi, je trouve qui sont pas très loin finalement. On n'est pas dans la Picasso de chez Citroën, quoi. C'est plutôt réussi.
Comme ça, c'est dit. Et en plus, c'est une belle boutique. Donc, Musée National Picasso dans le Marais. C'est 4 rue de Torigny, dans le 3e arrondissement. Allez, Web de Luxe.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Web de Luxe.
Et nous sommes ravis d'accueillir Sandy Pronois. Bonjour Sandy, comment ça va? Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le web cette semaine?
Eh bien, pas mal de choses. D'abord, Tommy Hilfiger qui met ses lunettes virtuelles. Ça se démocratise de partout en ce moment. On met son casque 3D. Je ne sais pas si on a les images. Non, pas encore. Mais en fait, on met des météo.
Hein.
Ah, bah écoutez, je les attendais. Ah, voilà. On met ce petit masque sur les yeux et on revit à 100%, à 380 degrés, le défilé de la collection automne 2015 qui a eu lieu début de cette année à à New York. On y est vraiment, on est assis au premier rang grâce à ce casque. On peut aller dans les backstage, on peut tout voir. Alors évidemment, l'expérience est réservée aux clients de Tommy Hilfiger, mais il est précisé que même ceux qui ne sont pas clients peuvent appeler pour tester ce masque. Alors
ce
la
masque,
boutique,
on le trouve dans les boutiques.
Voilà, on le trouve dans deux boutiques sur les Champs-Élysées du 13 au 15 novembre et puis à Capucines du 12 au 14 novembre dans les boutiques Tommy Hilfiger.
Eh bien voilà, et autre illustre maison, la maison de joaillerie Piaget.
Piaget qui, effectivement, vous le savez, a ouvert cette année une nouvelle boutique aux 7 rues de la Paix. C'est là qu'il faut se rendre pour découvrir jusqu'au samedi 14 novembre une exposition des plus belles pièces extra plates de la maison, y compris la nouveauté, l'Altiplano chronographe. Celle-ci est aussi présentée à travers son propre nanosite sur lequel on est renvoyé depuis Piaget.fr. Durant l'exposition, un dispositif a été mis en place dans la vitrine. On va découvrir un film qui retrace l'histoire de cette nouvelle montre Altiplano chronographe avec toutes les autres qui lui ont précédé. On découvre aussi un univers très masculin, c'est l'homme Piaget, un design très épuré, un petit peu sombre. On est chez un gentleman dans cette boutique, mais on ne sait pas lequel. Et ça donne l'envie de rêver quand on traverse cette rue de la Paix, quand on passe devant le magasin Piaget.
C'est ça, c'est vraiment une vitrine virtuelle et digitale. C'est pour ça que vous nous en parlez aujourd'hui. Et puis vous avez rencontré un blogueur, un beau jeune homme.
John Henrion, qui est à découvrir. Jordan.
Ah, il vous a troublé. Il vous a troublé, Jordan. Qu'est-ce qu'il a, Jordan?
En fait, Jordan, alors des milliers de followers sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Un blog aussi qu'il a développé avec son frère qui s'appelle Yanis. À travers ses posts, en fait, Jordan nous fait découvrir l'univers masculin. Donc, on va découvrir aussi des photos de voyage. Il nous inspire. C'est vraiment quelqu'un qui inspire la toile, qui est très, très connu sur internet. Il est à découvrir John Henrion et puis à travers lui son blog sur lequel il renvoie aussi à Monsieur Porter, à All Sense, à d'autres blogs comme un blog italien Franklin et Marshall qui propose du prêt-à-porter italien. Voilà, ça part dans tous les sens, c'est normal, c'est la toile.
Et Jordan Henrion, il est français.
Il est français, les deux sont frères, son frère aussi, ouais.
Et voilà, et donc on retrouve ce blog. Et si Jordan n'en parle pas encore, pourtant il y a une boutique en ligne, Horace.co.
Horace.co, alors c'est tout l'univers masculin dans la salle de bain. On trouve absolument tout ce qu'il faut, peigne, savon, crème pour la peau, je ne sais quoi. On se fait livrer à Paris en 3 heures, dans le reste de la France en 48 heures. On peut commander par SMS. Il y a aussi un petit magazine en ligne, je ne sais pas si on le voit encore, mais il y a beaucoup de choses sur ce site. Véritablement, on ne manque plus de rien quand on sort de sa douche.
La petite dose d'humour, hein. Faites bonne figure, ça c'est pour les hommes. Soyez soyeux, il faut leur parler simplement aux hommes.
C'est ça, il leur faut des images.
Merci beaucoup, Sandy Pronois, et ça s'appelle Horace.co. Merci beaucoup à vous, Sandy, à la semaine prochaine. Allez, Emmanuel, vous êtes passé par un hôtel ?
Un hôtel, on l'avait un peu loupé, il n'est pas tout neuf, il a à peu près 6-10 mois. Ça s'appelle la Maison Souquet. Et la Maison Souquet, là aussi, je parlais de rebond sur les différentes tendances. Alors, à nouveau Pigalle, dans l'énergie de Pigalle. On a parlé, on a d'ailleurs fait une émission il y a quelques mois sur cette renouveau de Pigalle. J'allais dire aussi le renchantement des anciens bordels. Puisqu'on est dans l'ancien bordel, il faut bien dire le mot, il n'y a pas autre chose. Alors on expliquera un jour pourquoi tous ces anciens maisons closes sont aujourd'hui très en phase à Paris. En vérité, économiquement, s'il y a une raison, c'est que c'est très peu cher. C'est très peu cher. Et d'ailleurs, surtout, je vous le dis entre parenthèses, pourquoi il y a autant de bars et autant d'hôtels dans ces anciennes maisons closes? Parce que vous récupérez immédiatement la licence 4. C'est très dur aujourd'hui d'avoir une licence 4. Et puis, dans tous ces bars, eh bien, ils avaient des licences 4. Donc, il y a tout un tas de petits malins qui se disent, tiens, je peux la récupérer très vite. Au-delà de ça, véritablement un hôtel qui réussit à s'inspirer justement de tous les codes qui ont fait Pigalle, c'est-à-dire la courtisanerie, l'idée de la maison close. Mais aujourd'hui, on est bien sûr dans un bar, tout ce qu'il y a de plus policé, avec un Jacques Garcia à la décoration qui est dans son parfait élément. On le connaît, Garcia. Il est parfois dans le grand genre, dans le grand style, dans l'enrobé, dans l'étoffe, dans le chamarré, dans le chatoyant, mais ici, ça va très bien. 20 chambres, 6 suites, toutes différentes, qui vont rendre hommage à ce qui a fait la courtisanerie du 18e siècle et du 19e, style des Indes, style chinois, style de la japonaiserie, style bien évidemment Napoléon III, la fête impériale. C'est plutôt très réussi. Avec cela, un spa avec un petit bassin de 10 mètres, ça va pas très loin, mais on peut privatiser. Et puis bien sûr un bar Il faut savoir qu'avant de monter dans les étages, il y a vraiment un jeu de salon, une bibliothèque avec cheminée et puis un bar plutôt réussi. Là aussi, je crois qu'on peut le privatiser, ce qui est plutôt pas mal. En tout cas, c'est une belle adresse, bien en phase avec son quartier, dans ce renouveau de Pigalle qui n'a de cesse de se réenchanter. Alors, c'est une maison réussie.
L'adresse,
Maison Souquet, je vais vous le dire, j'ai oublié. Parce que
vous irez voir, c'est du côté de Pigalle.
Pigalle, mais j'ai oublié l'adresse, c'est terrible ça.
Allez, une petite...
J'étais troublé.
Une petite gourmandise. Alexandre Stern. Je ne sais pas si vous connaissez Alexandre Stern. Il a inventé un nouveau métier, créateur de miel. Donc, il va à travers le monde. Il va chercher des gens qui savent faire le miel. Et il fait des assemblages, véritablement, comme en champagne, le whisky, etc. Donc, il ne défend pas un terroir, mais il défend des miels de partout. Et surtout, son savoir-faire
d'assembleur.
Il a créé sa société l'an dernier. Et ça y est, il ouvre sa première boutique à Paris. Ça se passe rue Vignon. Donc, il propose son savoir-faire en termes de miel. Et notamment, celui-ci qu'il a créé spécialement pour ça, pour le grand public, ça s'appelle Miel des Merveilles. Variété de miel utilisée. Sapin, oranger, sarrasin, avocatier, litchi. C'est hyper pointu, hein. Et ça vient du Mexique, Thaïlande, France et Espagne.
Belle idée.
Et puis, ça nous amène à mon objet de la semaine. Vous voyez, je porte un joli nœud papillon. Et ce nœud papillon,
question.
Maison F, fondée en 2011, on en a déjà parlé, hein, oui. Dans Goodluxe. C'est vraiment un cravatier qui a réinventé comme ça ce monde du nœud papillon. Et ça, qu'est-ce que c'est, Emmanuel?
Non, mais on ne présente plus. Alors, pour ceux qui nous écoutent à la radio, c'est la boîte du caviar Petrocian, vous savez, avec ce bleu. Ce bleu qui n'a plus. C'est le bleu Petrocian, d'ailleurs, et puis une
reconnaissable
boîte
entre tous.
Ah oui.
Sauf que, quel est le rapport entre les deux?
Entre le caviar et le papillon, je ne comprends pas, d'ailleurs.
Vous savez, le monsieur Petrocian, Armène Petrocian, il porte toujours des nœuds papillons absolument formidables, ouais. Avec ses grandes moustaches. Et donc, là, ils ont travaillé ensemble et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? C'est avec Michael Petrocian, c'est le fils Petrocian. Eh bien, on va faire des nœuds papillons ensemble.
Donc, quand on ouvre la boîte,
ouvrir,
on ouvre la boîte, il y a moitié caviar, moitié nœuds papillons, ou il n'y a que des nœuds papillons?
Il n'y a que des nœuds papillons. Alors, vous en avez un tout simple, comme celui que je porte, ça fait petite paire de caviar. Et alors, celui que vous avez ouvert...
lui, il rend hommage à l'esturgeon, quoi.
Mais c'est ça, c'est-à-dire que vous avez des...
C'est un nœud papillon à écailles.
Alors, montrez-le.
Allez, je vous donne ça, là. Oui, voilà, d'accord, moi, je suis pas très doué, moi, avec ce genre de...
Là, c'est vraiment un papillon, à écailles. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail dessus. Alors, c'est pas le même prix, hein. Vous avez le nœud Beluga et le nœud Beluga impérial. Le Beluga, c'est comme le caviar, hein. C'est 186. Et le Beluga impérial, c'est presque 700 euros. En tout cas, il y a un vrai travail de savoir-faire. Il y en a un, donc le Beluga impérial, c'est avec le plumassier Éric-Charles Donatien, qui est ancien directeur artiste de la maison Le Marié. Voilà, et c'est assez réussi. C'est dès le 15 novembre dans les boutiques Petrocian.
Je préfère quand même quand c'est rempli de perles noires.
Ah, ben ça, c'est parce que vous ne portez pas le nœud papillon.
Mais
c'est rigolo comme idée cadeau, non?
C'est pas mal. Non, mais voilà. C'est légitime parce que c'est un clin d'œil aussi à effectivement l'univers Petrocian et ces fameux papillons qu'il porte comme un manifeste, Armène Petrocian. C'est vraiment le personnage est incarné et précédé de son nœud pape.
Voilà, comme ça, au lieu de 750 grammes de caviar, vous avez un petit nœud
papillon. 750 grammes de nœud papillon. Vous m'avez pas vraiment convaincu, mais c'est sympa.
Maison F et Petrocian, les fêtes approchent, pensez-y. Allez, restez avec nous. On pourrait sinon offrir des sneakers, c'est le thème du jour.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goodlux Paris, l'édition du week-end. Karine Vergnol et Emmanuel Rubin.
Et des Goodlux en sneakers. Cette semaine, une expo délivrant pagaille, des modèles de plus en plus chics à collectionner. On ne pouvait évidemment pas passer à côté dans Goodlux. Et pour l'exposition qui se tient en ce moment au Crédit Municipal de Paris, on va en parler dans un instant avec Jean-Marc de Pencemaker. Bonjour.
Bonjour.
Co-commissaire de cette exposition sneakers, objet du désir. Et on en parlera également avec Max Limol, qui est aussi pour quelque chose dans cette exposition, auteur de Culture Sneakers, les 100 baskets mythiques. C'est paru aux éditions Hugo et compagnie. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et quand je vous disais qu'il y a pléthore d'ouvrages, nous allons parler sneakers aussi avec Amel Ménich. Bonjour.
Bonjour.
Collectionneuse vous-même aussi et auteur de Sneakers par Ugly Melly. Ça, c'est votre nom de scène, nom de blogueuse. Et le livre, il est paru aux éditions Duchesne. Et puis, avec un petit nouveau dans cette danse, c'est Tirito. Bonjour.
Bonjour.
Fondateur de la marque de sneakers, l'Humaine, avec un H entre le U et le M. Alors, on commence par cette exposition. Ah oui, parce que... Qu'il y ait des bouquins sur les sneakers, sur les baskets.
Jusqu'ici, tout va bien.
Soit. On sentait que ça allait venir, on sentait qu'il se passait des choses. Je regardais, il y a 2 ans à peu près, on avait commencé à bien parler sneakers dans Goodlux. Mais alors là, une exposition dans la galerie du Crédit Municipal de Paris qui vient de commencer. Il fallait bien que ce soit des Belges qui nous amènent ça, Jean-Marc de Pressmaker.
Voilà, nous sommes une fondation qui nous occupons des traditions populaires, des groupes sociaux. Donc c'était parfait. On fait de l'ethnologie populaire, en fait. La sneakers, puisqu'on parle de sneakers, de chaussures qui ne sont pas spécialement faites pour faire du sport. Enfin, qui sont faites pour faire du sport.
À l'origine,
mais,
au départ.
À l'origine, mais on n'en fait pas avec celles-là. Sont vraiment des marqueurs de groupe, des marqueurs sociaux. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire une exposition qui est basée seulement sur les collections, des collections de gens. C'est-à-dire, nous n'avons pas été voir d'équipementiers. Ce sont seulement des collections,
et
plus
du coup,
des œuvres d'art.
On a effectivement des collectionneurs, des œuvres d'art. Du coup, on a des pièces exceptionnelles. Il y a à peu près 200 chaussures, certaines même qui sortent de musées, des chaussures créées pour l'occasion.
Pour les chaussures plus anciennes.
Et des chaussures plus anciennes. Mais alors, du coup, il y a toutes les marques, et vous avez choisi quoi, les plus exceptionnelles, les plus... Comment vous les avez choisies?
En fait, ça a été un travail de fond qui nous a pris
plus d'un an. Parce qu'il y en a quelques-unes, on verra ça dans un instant.
Plus d'un an avant ça, avant de faire l'expo à Bruxelles, au départ, on a été voir les gros collectionneurs. En fait, il faut rentrer dans ce milieu qui est un milieu assez fermé, faut le savoir. Nous, on est des ethnologues, on est des scientifiques, donc c'est un milieu assez fermé. Mais une fois qu'on est dans le milieu, on rencontre tout le monde. Et on sait très vite les sneakers qui sont collectionnés. Il faut savoir qu'il y a des gens qui collectionnent pour le plaisir et des gens qui collectionnent pour les revendre.
On va parler de ça, la spéculation autour de la sneakers. Mais alors, d'abord, sur les sneakers en soi, le produit, vous dites que vous êtes allé voir des collectionneurs et pas des équipementiers. C'est-à-dire que les pièces exposées sont toutes des pièces uniques, des séries limitées, des collections capsules qui ont pu être créées.
La plupart des pièces sont des pièces limitées ou uniques. Nous avons des pièces que Max a eu la gentillesse de nous prêter, qui sont tout à fait uniques. La première Air Max signée par Tinker Hatfield, qui est le créateur.
C'est la vôtre.
Emblématique de Nike. Voilà, donc des pièces exceptionnelles. Nous avons les Air Mag de Retour vers le futur. Nous avons des tas de choses, des tas de pièces comme ça, ou des pièces comme des Nike, des Jordan Eminem, qui sont des pièces très très recherchées. Pour les connaisseurs, ça parle, mais pour les non connaisseurs, pas. Et l'expo est fait pour les deux.
Bien sûr, pour les novices et pour les experts.
Voilà.
Puisque vous êtes ethnologue et je poserai la même question à Max, puisque son livre s'appelle Culture Sneakers. Et ce qui est intéressant, c'est plus le mot culture que le mot sneakers. À partir de quel moment ces sneakers, qui au départ est tout de même une pièce de consommation, de grande consommation, de mainstream, et d'abord et surtout créée pour le sport, voire pour la street, mais à partir de quel moment on peut dater de son, j'allais dire, du fait qu'elle verse dans la culture, justement, que ça soit une pièce artistique, culturelle, presque un élément de style, à partir du moment où ça se crée, les années 2000, les années 90,
excuse-moi,
du temps de ma jeunesse, franchement, c'était des pompes, quoi.
Bien avant.
Tu les sortais pas, quoi.
Bien avant, en fait. Il faut savoir que les étudiants anglais et américains ont sorti vers 1930-1940, mettaient déjà des sneakers. Hein. Le mot sneakers date de 1875. Tout sneak, c'est se faufiler, marcher sans faire de bruit. Hein. Donc, il faut savoir que c'est un mot qui existe depuis longtemps et que ces chaussures sont dans la rue, enfin dans la rue plutôt, dans les milieux estudiantin, comme ça, depuis les années 30. C'est vraiment, vraiment arrivé avec des groupes de rap, avec les Afro-Américains aux États-Unis, le groupe Run DMC.
Mais Maximol, justement, pour poursuivre la question, ce que vous racontez en partie dans votre ouvrage Culture Sneakers, à partir de quel moment peut-être apparaissent les collectionneurs? À partir de quel moment on va
Il y a un discours, on commence à philosopher autour de la sneakers.
Ces pièces uniques qui sont effectivement des éléments de style hors du commun.
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les propres consommateurs qui ont commencé donc à collectionner les baskets. Les marques ne se sont pas rendues compte réellement du pouvoir qu'avaient ces nouveaux consommateurs. Donc c'est plutôt dans la moitié des années 90 que les marques, à un moment, font des cellules de réflexion sur les modèles rétro. Ils se disent, mais voilà, on a des collectionneurs, des gens qui sont arrivés à maturité, qui ont un pouvoir d'achat, qui ont cette manière de consommer qui est un peu étrange, qu'on appelle les sneaker addicts, qui sont pour moi nommément la version la plus méritante du consommateur lambda, puisqu'ils connaissent les modèles, ils connaissent l'histoire, ils sont capables d'en parler pendant des heures, et surtout c'est transgénérationnel, ils peuvent en parler à tout le monde. Donc les marques se disent, il y a peut-être une opportunité de créer de remettre sur le marché des modèles rétro, donc des modèles qui n'ont pas rencontré la consommation escomptée à l'époque, puisqu'il n'y avait pas encore tous ces moyens marketing, il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas encore certaines choses qui poussaient à la consommation. Donc il y a aussi cet aspect des choses que je juge effectivement très important chez les collectionneurs à l'heure actuelle.
Et, mais il y a après ces collections capsules, justement, ce qui fait la valeur de ces sneakers comme dans tout le monde du luxe, c'est aussi ces collections réduites.
L'effet de rareté,
l'effet
limité.
C'est quoi la plus belle pièce que vous ayez, vous, Maximum ?
La plus belle pièce, pour moi, restera toujours la Jordan 1. Pourquoi ? Parce que pour moi, l'engouement autour de la basket moderne, entre guillemets, vient de cette paire de chaussures portée par Michael Jordan, qui a été interdite sur les parquets de NBA. La marque a su habilement retourner la situation.
Pourquoi
en faisant...
Elle était interdite à l'époque ?
Elle était interdite parce que la chaussure était trop colorée. Donc, Michael Jordan recevait des amendes à chaque match que Nike s'empressait de payer naturellement. Et ils ont trouvé le contre-pied, c'est de faire une pub marketing en disant qu'elle était interdite sur les terrains de NBA, mais par contre, rien ne nous interdisait de pouvoir l'acheter.
Alors, on le voit, la sociologie d'un public qui va évoluer, qui justement va grandir aussi en termes de pouvoir d'achat et qui va participer de ces sneakers en tant qu'élément culturel, les marques qui entretiennent, comme vous le dites, le désir et la rareté, mais qu'est-ce qui en fait quand même aussi des pièces, j'allais dire, de style ? Est-ce que en termes de savoir-faire, puisque c'est ça aussi parfois qui fait une marque de luxe ou un élément de style, il faut qu'il y ait un savoir-faire, est-ce que les pièces dont vous parlez avaient une technologie ou une technique ou j'allais dire un faber qui fait que tu te dis c'est impeccable, c'est quelque chose qui est rare justement.
Généralement, toutes les paires de baskets ont toujours la technologie du moment, la technologie donc la plus aboutie. Mais là, si on se réfère au modèle rétro, quand on regarde autour de nous, la mode est au rétro, hein, pas que dans la basket. Voilà, il y a même des chercheurs qui essaient de pondre des réflexions sur ce rétro, ce côté un peu authentique pour pouvoir se rassurer. Sauf que le levier commercial est important chez les marques. Elles ont trouvé ce levier effectivement pour nous faire consommer les produits sur plusieurs années de la même manière. Je disais qu'en fait, avant, une génération, c'était 20 ans. Sauf que chez les marques, maintenant, elles ont raccourci les générations. C'est 2-3 ans. C'est 2-3 ans.
Et voilà, et ça tourne. Amel Meynich, une collectionneuse. Ça, c'est intéressant aussi. Les femmes collectionneuses, d'ailleurs, vous avez un blog sous le nom de Ugly Millie. Et vous avez sorti donc l'ouvrage Sneakers aux éditions Duchesne. On n'est plus dans la culture hip-hop aussi, ou dans une culture Michael Jordan. On est dans une autre forme de sneakers. À partir de quel moment les femmes se sont elles aussi appropriées la sneakers ? J'ai l'impression que c'est plus récent. J'ai lu que c'était peut-être au début des années 2000, Phoebe Philo qui arrive pour saluer à la fin de son défilé en basket. C'est ça ?
Je pense que ça fait quelques années que les femmes aiment les baskets. Outre-Atlantique, on le voit, les New Yorkaises, c'était l'accessoire le plus facile pour sortir du travail, aller en soirée, etc. Ça fait 2-3 ans que la mode, en tout cas, a réussi à démocratiser la sneakers auprès des femmes. Aujourd'hui, il y a même des boutiques 100% femmes qui arrivent à Paris. Donc on a vraiment, en tout cas, un engouement. On a des marques comme Nike qui ont tenté de féminiser en ajoutant des talons à des sneakers pour justement approcher ce public plus facilement. En tout cas, ça fait quelques années qu'on voit au pied que ce soit...
Mais vraiment la basket technique, hein, là, pour le coup, la sneakers technique, mais version féminine. Combien vous êtes prête à mettre dans une basket pour voir quand même qu'on en parle dans Good Luck et pour cause, quoi.
Je suis pas du genre à mettre énormément, puisque je consomme...
Beaucoup,
donc j'essaie d'être un peu raisonnable.
De basket, on en trouve à 400, 500 ?
400, 500, après, c'est peut-être pas du prix retail, ça va être dans le luxe, on va les trouver à 400, 500. Après, oui, maintenant, on a plus facilement des paires entre 150 et 220, que ce soit chez les équipementiers et sans passer par les marques de luxe.
C'est quoi votre préféré ?
Pour moi, c'est une Jordan 2.
Ah, ben... Et pourtant, vous n'êtes pas consulté.
Comment vous expliquez, parce qu'il y a presque un paradoxe, finalement, la sneaker, originellement, c'est quelque chose de très populaire.
Oui.
De très dans la rue. Et aujourd'hui, c'est pas popularisé, c'est tout à fait l'inverse. C'est pas du tout une popularisation de la sneakers, c'est, j'allais dire, une gentrification de la sneakers. Ouais. Elle rentre dans le monde de la fashion, elle remonte dans le monde de l'artistique, elle est tout sauf démocratique aujourd'hui. Après, elle prend des prix hallucinants, on parle de collectionneurs, d'expositions. Elle est en fait sortie de sa pop culture.
Ça, c'est le marketing et les marques qui font qu'elle est sortie de
sa
pop
culture.
Mais
le public veut bien les suivre. Après, ou alors c'est les Total Gogo ou la rébellion du hip-hop, elle en prend un sacré coup.
C'est ce qui s'est passé quand la Stan Smith a été remise sur sur le marché. On a vu des tonnes et tonnes de ventes de Stan Smith à ce moment-là, mais elle reste quand même dans la rue, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui sont fans de basket depuis très longtemps, qui la portent.
Il la porte dans la rue, mais Max, il y a quand même vous qui parlez de culture sneakers et qui évoquez et qui convoquez à travers votre ouvrage tout un tas de grands acteurs qui ont participé à cette culture-là, et notamment des gens du hip-hop. À la question que je viens de poser, finalement, c'était quelque chose de très très street, très populaire, très mainstream. Aujourd'hui, c'est quasiment quelque chose de très upper, quoi. Au niveau des prix, au niveau des collaborations, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Concrètement, la sneaker, c'est une tenue décontractée, hein, par excellence. Ouais. Il faut quand même remonter un petit peu aux origines, dans les années 70, comme c'était un peu perçu comme si on était un peu pauvre.
Bien sûr, c'était quasiment même. On ne pouvait pas porter une sneaker dans le bureau. Voilà. Aujourd'hui, c'est presque.
C'était pas aussi mainstream qu'avant. Quand on regarde maintenant les marques de luxe qui s'intéressent à la basket, qui est devenue mainstream et lifestyle, le fait que les marques de luxe s'y intéressent, ça enlève le côté un peu street. Donc, elles vont toucher des classes à la fois populaires et très sélectes.
Alors, on va y revenir un petit peu à cette question et à l'emprise des marques de luxe, peut-être qui ont transformer un petit peu les choses. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. D'abord, on fait une petite pause sur BFM Business et on se retrouve tout de suite pour Good Luxe.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et quand les sneakers se paient une expo, eh bien Good Luxe se fait en basket. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Marc de Pelsmaker, c'est bien ça, co-commissaire de l'exposition Sneakers, objet du désir au Crédit Municipal de Paris, en compagnie de Max Limol, auteur de Culture Sneakers, les 100 baskets mythiques, c'est chez Hugo et compagnie, d'Amel Ménich, auteur de Sneakers par Guimeli aux éditions Duchesne, et de Thierry Tau, fondateur de la marque de sneakers Lumen, que vous nous présenterez dans un instant. On disait juste avant la pause, il est vrai aussi que les maisons de luxe sont appropriées les baskets. J'ai fait un petit tour là rapidement des grosses tendances du moment et je sens que vous êtes dans les starting blocks là, les deux collectionneurs. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors évidemment les Stan Smith, vous nous parliez tout à l'heure Maximol, ce qui marche aujourd'hui c'est le retour du vintage, la collaboration avec Raf Simons, ancien DA de Dior, la basket blanche aussi, grosse tendance en ce moment. Par exemple John Lobb quand même,
le faiseur
du cuir. Voilà, la nouvelle directrice artistique arrive. Qu'est-ce qu'elle sort? L'Eva, une basket. Les tennis de Valentino, les slip-on, les Vans, il y a Emporio Armani, la basket de luxe, et j'ai la Tom Ford à $1,000.
Voilà. Ça, il y en a beaucoup, $1,000.
Ouais, exactement. Et tout ça, on est aux alentours de 400-500 euros. Est-ce que c'est le même monde? Est-ce qu'on parle du même monde, Maximol? Quand on parle de ces baskets de luxe, on ne dit pas qu'elles sont bien ou mal faites, hein. Et quand on parle des sneakers dont vous parlez dans votre ouvrage Culture Sneakers,
c'est la nouvelle tendance, la sneaker de luxe. Effectivement, les marques de luxe ont donc investi ce segment, donc pour enlever le côté un peu street de la sneakers. Donc ça veut dire qu'elles deviennent plus sélectes, qu'en gros que ça touche à la fois les classes populaires et les classes un peu très bourgeoises. Mais il faut comprendre que des marques sportives, des marques de sport comme Puma font déjà des baskets de luxe, en tout cas des tentatives depuis fin 98 avec des designers japonais.
Qui appartient au groupe Kering, groupe de luxe.
Qui a Yves Saint Laurent, Balenciaga. Donc vous voyez, effectivement, il y a une identité forte dès le départ. Donc Puma a été la première marque sportive à s'intéresser à la sneaker de luxe à cause justement de son ADN, à cause de l'appartenance au groupe Kering.
Jean-Marc, le Pelsmaker.
Ça date en fait d'assez longtemps, hein, puisque déjà pour le sport, Suzanne Lenglet était déjà une célèbre française, était déjà habillée par des couturiers et chaussée par des couturiers. Hein. Donc et Karl Lagerfeld en 1985 a fait une chaussure pour Inès de la Fressange, une sneakers pour Inès de la Fressange.
Mais ce que vous dites, c'est les collectionneurs que sont Maximol, Guimeli ou d'autres finalement
ne collectionnent pas ces choses-là.
Ça les intéresse pas.
Je ne crois pas.
Réponse d'Amel. Ouais. Vous collectionnez et les sneakers de luxe ou est-ce que vous, j'allais dire, vous collectionnez véritablement les icônes pures et dures
des
que sont la Stan Smith originelle?
Alors, je vais être sincère, je collectionne ce qui me touche, en fait. Je suis pas sur l'esthétique, ni... C'est vraiment sur une histoire de nostalgie, de rappel de ce qu'on portait quand on est petit, etc. Et la belle basket, en fait, qu'elle soit de luxe ou non, la belle basket que je vais porter et qui va pas rester dans la boîte.
Qu'est-ce qui fait une belle basket?
C'est les matériaux. Tout simplement, les matériaux, il y a aussi tout l'historique. Quand elle ressort, les marques aiment bien jouer sur le marketing nostalgie, donc avec forcément...
Le storytelling.
Exactement, donc c'est ce qui va nous toucher, qui va nous rappeler à un moment donné une histoire. Quand Fila revient en ce moment avec ses sneakers mythiques comme la Fila Grand Hill, forcément, c'était ma première paire. Donc, j'ai pu que l'acheter et la racheter plusieurs fois.
Voilà, vous allez sauter dessus. Exactement. Alors, en revanche, pour la marque Lumen, il va falloir attendre un petit peu avant de devenir vintage, Thierry Thau, puisque vous vous lancez. C'est audacieux parce que justement, quand on sait qu'il y a ces marques de luxe, quand on sait qu'il y a toutes les marques dont on parlait à l'instant, des équipementiers, c'est même les anciens équipementiers qui reviennent, de se lancer dans la sneakers, made in France, oui. Et qui plus est, qu'est-ce qui vous intéressait dans cette démarche?
C'est d'abord, un combat justement pour un processus en fait de réindustrialisation du savoir-faire français. La sneakers a disparu en France en termes de fabrication et nous... Je veux dire, moi, personnellement, en tant qu'enfant d'origine étrangère, je voulais dire merci à la France en redonnant justement ces lettres de noblesse à un produit qui disparaissait.
Il y a eu des marques françaises, là je m'en parle aux experts, qui étaient des marques fortes dans la sneakers.
Dès la fin du 19e siècle, il y avait déjà le coq sportif.
Et
il y avait Patrice, mais qui s'appelle Patrick maintenant.
Ouais.
En fait, et alors il y avait Keds aussi, K-E-D-S.
La marque Noël, 100% bretonne.
Springcourt, c'était pas français?
Oui, Springcourt aussi.
Springcourt.
La première tennis en 1936.
Voilà, c'était juste pour bien enrichir votre propos.
C'est un des modèles qu'on appelle des archétypes d'ailleurs, ces modèles-là.
Toujours l'exception culturelle, sneakers française.
Lumen, là, si on regarde, on n'est pas dans la basket technique. Quand on regarde la collection de Grimelli, par exemple, on est sur du sportif qu'on peut porter en ville.
Tout à fait.
Vous, on est plus sur de la chaussure de ville avec laquelle on peut marcher, c'est plutôt
c'est ça
l'idée.
Exactement ça. En fait, moi, en créant ces modèles-là, je voulais faire en sorte que ce soit des modèles qui puissent être portés avec un costume au bureau, donc au quotidien, dans... au bureau de tâche, oui.
Alors, comment vous les avez imaginés? Parce qu'au départ, vous n'êtes pas forcément dans la chaussure. Justement, comment vous avez regardé? Qu'est-ce que vous vouliez faire?
Alors moi, pour vous dire, je suis dès le départ quelqu'un qui m'intéresse à la sneakers. Je suis notamment quelqu'un qui m'intéresse à des sneakers du type Lanvin, vous voyez, donc qui est quand même une marque qui a permis de remettre mettre la sneakers dans justement le domaine du luxe. Et donc, j'achetais notamment des Lanvin. En tant que consommateur responsable, je cherchais justement des sneakers made in France. Je n'ai pas trouvé. Donc, il est arrivé.
Vous êtes mis au boulot.
Tout à fait. Tout à fait.
Mais alors, là je parle aux experts. Quand vous voyez ces modèles, est-ce que pour vous, c'est encore une sneakers ou est-ce que finalement, on est plutôt dans une chaussure de ville cool, sportive, dans le sens élégant sport, ou est-ce qu'on est encore dans les codes de la sneakers?
C'est encore les codes de la sneakers. Effectivement, ça, c'est plus du lifestyle. C'est fait pour être porté. Et c'est bien aussi d'amener une touche d'originalité, de pas tout le temps avoir les mêmes silhouettes avec des tiges hautes. C'est clair qu'il faut aussi donner la chance au produit. Et il y a 100 personnes, donc 100 façons différentes, un peu plus lifestyle. Et c'est ce qui fait la richesse de ce monde-là.
Mais ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un autre bouquin qui sort aussi qui s'appelle 1000 baskets culte aux éditions Hachette Loisirs. Quand je vous disais que c'était le moment de s'intéresser à la sneakers de Mathieu Lemot, il dit « Une sneaker ne naît pas culte, elle le devient finalement. » Amel Méniche, c'est bien ce que vous racontez depuis tout à l'heure. Vous dites « Ma collection, je la fais par rapport à la nostalgie, par rapport à l'histoire. » C'est-à-dire qu'une sneaker qui sort aujourd'hui, qui n'a pas son histoire, elle n'a pas sa chance?
Bien sûr que si, elle a sa chance, parce qu'elle va attirer des personnes qui vont être sensibles à son esthétique. Aussi, elle peut avoir une histoire par rapport à ses matériaux. Donc là, on a une histoire qui est made in France. Donc forcément, elle va pouvoir plaire au moins à quelqu'un. Et voilà, les goûts font que ça va plaire à tout le monde. La sneakers va se créer son histoire où elle l'a déjà. Donc forcément, il y aura toujours quelque chose pour plaire.
Autre question, j'imagine qu'on doit les retrouver beaucoup dans votre exposition, Jean-Marc. En tout cas, dans vos deux ouvrages, et particulièrement du côté de chez Max, on a un peu le sentiment qu'il y a Nike, et notamment la Jordan, et les autres.
C'est clair.
J'allais dire Nike, avec après Adidas, mais un autre monde. C'est vraiment eux qui dominent. La culture sneaker, en fait, j'ai l'impression que c'est Nike qui l'a orchestré.
On a été piqué au virus très tôt. Pour ma part, en 30 ans de consommation, entre guillemets, de collection plutôt, j'ai accumulé 400 paires. Donc sur 30 ans, 60% de Nike. Voilà, parce que j'ai vraiment été piqué à ce virus très tôt, même si c'est une marque qui, quand même, faut pas oublier que Nike, c'est une marque très jeune, de 72,
bien
qui
sûr,
a le plus
ça,
gros
ça,
héritage. C'est ça qui est paradoxal.
C'est ça qui est bluffant.
Par
72,
rapport à,
c'est très jeune.
Le coq sportif qui naît quand même en 1892.
On l'a quasi oublié.
Ou même Adidas en 1948.
Ah, je suis vache. Mais je veux dire, il a raison. C'est moche. Mais alors, je m'en excuse. Mais il a raison, c'est impressionnant de voir une marque très jeune, 72, c'est rien du tout, qui, quelque part, sur un univers comme la sneaker, s'est créé un patrimoine qui vaut bien celui, en termes d'histoire, de matériel. C'est un vrai patrimoine. Et il joue là-dessus terriblement. Et on voit bien, justement, que les autres sont à la raccroche. On parlait j'ai beaucoup de respect pour le coq sportif, mais ils sont dans les codes de Nike. C'est parce que Nike a décidé de jouer cette nostalgie, ce vintage, que toutes ces marques, si on dit ça marche pour Nike, on va le faire nous aussi. C'est un peu vrai, ceux qui donnent le ton quand même.
Je suis pas trop d'accord avec vous.
Allez-y, je suis ravie.
Je suis pas trop d'accord. Je pense que des gens comme Nike ou Adidas ont fait appel à des athlètes, aussi à des ambassadeurs que un Lecoq sportif à l'époque ne pouvait pas avoir.
Permette.
Donc c'est plutôt l'image qui a fait. Et aujourd'hui, quand vous allez parler peut-être à des gens encore plus passionnés que moi sur la sneakers, Lecoq sportif fait essentiellement partie de leur patrimoine de collection, parce que justement il y a aussi ce côté nostalgie, historique,
un petit peu plus de travers,
exactement, et puis on va sur des produits aussi de très qualité aujourd'hui, les rétro, ouais. Le coq sportif font...
Ils sont marrants, le coq sportif, parce qu'ils jouent là-dessus, là. Ils viennent de faire une collection avec le Red Star, qui est un club de football, okay. Qui a un grand patrimoine un petit peu perdu, parce qu'il est très lointain, mais qui revient, qui monte petit à petit.
Ils sont sponsors de Saint-Etienne.
Et c'est vrai qu'ils sont sponsors de Saint-Etienne, c'est vrai qu'ils jouent bien ce coq.
Ils jouent bien, et en plus, ils ont des collaborations qui sont outre-Atlantique et outre-Manche, et qui sont vraiment un peu originales par rapport à des marques...
C'est bien, Ahmed, vous m'avez joli
contacté. Combien vous allez faire, Ahmed?
J'en ai 320.
Ah, il y a battle. J'en ai 320. Vous avez aussi une sneakers à votre nom?
Oui.
Quand même, la Reebok.
Bitwix.
Bitwix. On n'a pas encore parlé de Reebok.
Oui. En effet, c'est comme le coq sportif. Ce sont des marques qui font partie du patrimoine de la sneakers, qui appartient au groupe Adidas. Donc forcément, Reebok a aussi son histoire. On l'a vu et revu il y a quelques années, que l'anniversaire de la Pump. Donc ce sont des marques qui, à un moment donné, sont venues et dont les fans, qu'on soit collectionneur ou consommateur, ont forcément acheté ou porté à un moment donné.
Je voudrais juste citer aussi, il y a une boutique, il y a de plus en plus, vous parliez de boutique à Paris, vous allez nous donner vos adresses, parce que au-delà de l'exposition, peut-être ça va donner envie d'acheter. Numéro 42,
oui.
Ça c'est une belle adresse.
C'est une très belle adresse.
Qu'Adidas ?
Alors c'est le concept store Adidas, donc ouais. Ce sera toutes les collaborations avec Y3, Raf Simons, et là notamment la collection Yeezy qui est sortie donc avec Kanye West. Donc c'est vraiment très collaboration.
Ce qui est marrant, quand on vous entend parler, il y a quasiment, pour ceux qui ne suivent pas, il y a un name dropping, il y a des codes. C'est vraiment la pop culture en marche autour de la sneakers.
Vous ne pouvez pas si bien dire, hein, parce que maintenant c'est vraiment les stars de la chanson. Hein. Ça a commencé vraiment avec Eminem, plus ou moins, déjà avec d'autres gens avant, puis avec Eminem. Et maintenant, il y a Pharrell Williams qui ne fait que colorer des Stan Smith, et ça fonctionne. Et Kanye West qui, lui, amène beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il amène une vraie création technique dans la chaussure, parce qu'on dit il n'y a pas tellement de technique dans les chaussures à la mode pour le moment. Bien oui, parce que les Yeezy de Kanye West sont des chaussures les plus recherchées et elles sont très très techniques.
Les sportifs qui sont quand même toujours là, pourvoyeurs de sneakers, mais alors aujourd'hui aussi les artistes, les créateurs,
Rihanna,
les créateurs, la pop culture de musiciens, mais aussi des créateurs de mode, voire des artistes
et justement,
contemporains.
Je voudrais juste préciser, dans l'exposition en ce moment au Crédit Municipal, il y a des artistes et vraiment des œuvres artistiques qui ont été créées, qui ont transformé. Oui, les sneakers.
Une installation de Jean-Luc Bourman et des choses assez
c'est
importantes.
C'est la nouvelle page blanche de la création, la sneakers.
Ça fait un petit temps qu'il y a du sneak art, hein, depuis les années 80.
Ah, il y a sneak art.
Parce que c'est des voix.
Des
voix est un artiste américain qui a commencé à faire ça. Puis il y a eu Mr. Cartoon qui est par exemple un tatoueur. Et ce sont des gens, c'est très recherché.
Alors ça nous amène justement quand on parle.
Mais c'est avec des équipementiers, ça n'est pas avec des stylistes.
D'accord. Voilà. Mais quand on parle de création pareille, on en arrive finalement un petit peu à ce qui active aussi le monde de l'art contemporain, c'est-à-dire dire la cotation et la spéculation. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de cotation et de spéculation de sneakers? Faut investir dans tel produit ou pas?
Oui, mais pas dans les produits qui ont à voir avec l'art. C'est-à-dire que c'est plutôt les pièces rares, les pièces qui sont des samples, comme on dit beaucoup d'anglais là-dedans, qui sont des échantillons, qui sont des pièces uniques, ou bien des pièces qui sont à 25 ou à 8 exemplaires, 25 exemplaires. Il faut savoir que c'est plusieurs centaines de milliers d'exemplaires qui sortent à chaque chaussure. Il faut savoir que Jordan sort une paire toutes les semaines, hein, et encore, à mon avis, dans plusieurs pays, ouais. Quoi. Donc, les gens font la file devant les magasins ou dorment devant certains magasins. À Bruxelles, par exemple, devant chez Panthers, c'est un magasin très connu à Bruxelles. Les gens dorment devant puisqu'ils achètent une paire et le lendemain, la paire a pris 500 euros. Vous voyez? Parce qu'elle est rare.
Max Limol, on va terminer ce petit tour de table. Votre adresse, vous, à Paris,
J'en ai plusieurs. J'aime bien la boutique Swish, Opium également, et le 8 Rive Gauche. Et en province, j'aime bien Rice and Beans à Toulouse.
C'est
de bonnes adresses.
Faites bien de donner une adresse à Toulouse. On va les trouver où, les Lumens, Thierry?
Pour l'instant, le seul moyen de les acheter, c'est en nous contactant directement. Donc via notre page Facebook. Mais ceci étant, on sera prochainement...
Parce qu'on est à la naissance de cette histoire.
Tout à fait, ouais, tout à fait. Et prochainement, on sera donc sur le salon du Made in France, où nous avons un stand et où justement le grand public pourra venir à notre rencontre.
Oui, parce qu'on rappelle vraiment, elles sont faites de bout en bout.
Tout à fait.
En France, ces baskets-là, ces baskets de ville, on dirait.
Tout à fait. Du piquage à découpage, piquage et soudage, coulage.
En tout cas, on ira voir tout ça à l'exposition Sneakers, objet du désir au Crédit Municipal de Paris. On attend, c'est jusqu'en janvier. Hein.
Jusqu'au 12 janvier.
Jusqu'au 12 janvier. Merci infiniment à vous, Thierry Tho, Amel Méniche, Max Limol et Jean-Marc de Pelsmaker. Merci beaucoup à tous les quatre. On va peut-être se mettre à la basket, Emmanuel, on va changer de chaussure. Nous, on va se mettre à la page, comme qui dirait. Merci en tous les cas, à tous les quatre, restez avec nous. Dans un instant, c'est l'agenda dans Good Luxe.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et on arrive au moment où il faut sortir les smartphones et les petits carnets, parce que dans un instant, on va vous donner les infos à retenir pour l'agenda. Mais tout d'abord, comme chaque semaine, le livre de la semaine. Et quel livre? Je sens qu'on va encore nous traiter, finalement, nous dire qu'on a des chouchous, Emmanuel. Mais c'est pas de notre faute. Il y en a qui travaillent bien. Et notamment la maison d'édition La Martinière, qui sort là tout juste ces jours-ci un ouvrage assez incroyable, parce qu'il n'en existe pas tellement en France. Il y a eu très peu d'initiatives françaises sur les designers Charles et Ray Eames. Un véritable couple à la ville comme à la Seine, j'ai envie de dire. Designer incontournable du XXe siècle, vous connaissez forcément l'une de leurs créations, que ce soit des fauteuils, des chaises notamment, mais aussi des jouets. C'est tout ce que l'on retrouve dans cet ouvrage. On rappelle leur idée, c'est vraiment produire le meilleur pour le plus grand nombre au coût le plus bas.
La définition parfaite du design.
Exactement. Maryse Quinton a écrit l'ouvrage et il y a une préface de Eames Démétrios, qui est le petit-fils, donc qui est l'un des petits-fils de Charles et Ray Eames. Et l'idée, c'est ce livre est écrit avec des témoignages de designers du monde entier. C'est-à-dire, on reprend bien sûr l'aspect chronologique où on raconte leur travail en couple, parce que ça, c'est une véritable particularité, où on trouve ce qu'ils ont fait en matière de mobilier, ce qu'ils ont fait en matière de lieux, les fameux jouets. Alors, il y a par exemple un fameux éléphant, mais aussi les cartes House of Cards. Et alors, c'est un livre, en plus, iconographiquement parlant, très très riche. Non seulement on a on allait puiser dans les archives de la maison, mais aussi on retrouve leur intimité.
On a l'impression, en le découvrant, qu'on est effectivement dans la création des Eames, mais moi je trouve que c'est un très beau livre, très réussi, parce qu'effectivement ils ont réussi à récupérer tout un tas de photos où on les voit. Vous savez, on a souvent du mal à mettre un visage sur un designer. Là, ça nous renvoie effectivement aux personnages, à leur bureau de travail, à leur planche à dessin, aux décors dans lesquels ils évoluaient, aussi à la côte ouest américaine qui a fait leur succès. Et c'est vrai, ce que vous disiez, c'est qu'au-delà de l'auteur qui va accompagner tout l'ouvrage, ils ont demandé à plein de créateurs contemporains de Stark à Nathalie Crasset, en passant par des auteurs internationaux,
Noé Duchaufour-Laurence,
de venir comme cela aussi être co-auteur pour raconter soit une création, soit quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, les Hymns ont fait évoluer. C'est un livre très vivant, c'est ça le beau livre. C'est un livre qui n'est pas que sur papier glacé. Pour moi, c'est ce que fait en ce moment les éditions de La Martinière, et particulièrement ainsi de là. Voilà ce qu'on dit souvent, un beau livre, il a le droit d'abord d'être soumis à la critique. Et c'est ce qu'on fait dans cette émission, n'en déplaise. C'est pas parce que vous êtes sur papier glacé que vous n'avez pas le droit d'être critiqué. Et là, il y a vraiment un propos éditorialisé. C'est ce qui manque souvent au beau livre. Là, c'est très réussi. Moi, c'est un vrai coup de cœur.
Voilà, avec une très belle couverture de surcroît où on retrouve effectivement quelques-unes des pièces iconiques de la maison. Quand je vous lisais, le fameux petit fauteuil à bascule copié, inégalé depuis des lustres. Ils ont disparu à la fin des années 70. Autant vous dire, voilà tout ce qui reste.
Ils sont encore très modernes.
Charles et Ray Hymns de Maryse Quinton. Édition La Martinière.
On a un trophée là.
Ah ouais, exactement. Ouais, allez, normal. L'agenda.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end. L'agenda.
Mais parce que les livres, on les aime, Emmanuel. Preuve en est, ce prochain rendez-vous.
Alors justement, là, je vais vous parler d'une exposition qui sera certainement l'une des plus étendues de la fin de saison, puisqu'elle aura lieu le 11 décembre. C'est la dispersion de la bibliothèque de Pierre Berger. On ne présente plus Pierre Berger. Alors pourquoi je vous en parle un mois plus tôt? Pour deux raisons. D'abord parce que cette exposition sera itinérante. Elle va se balader dans 7 villes, dont Paris, à Paris donc le 11 décembre, orchestrée par Sotheby's. Et ensuite parce que c'est une grande exposition qui se prépare, et se prépare de deux manières. D'abord parce qu'il y a un site internet, www.labibliothèquedepierreberger.com. C'est un site terriblement réussi où Pierre Berger, à travers des entretiens, des vidéos, et puis bien évidemment on rentre véritablement dans les ouvrages qui seront dispersés, raconte sa bibliothèque, les pièces maîtresse qu'il possède. C'est véritablement comme une petite chaîne de télévision. Ensuite, parce que est à disposition dès à présent le catalogue de cette exposition, et ce catalogue, vraiment, il peut déjà enrichir votre bibliothèque. Alors qu'est-ce qu'on va disperser? Eh bien 1600 œuvres, pas moins de, j'allais dire, 6 siècles de création littéraire et de bibliophilie vous contemple. Alors c'était très structuré, hein, ça, sa bibliothèque. Il y a tout à la fois des ouvrages d'une rareté absolument impérissable. Alors c'est pareil, par exemple, la Divine Comédie de Dante, mais attention, dans l'impression de 1487 à Brescia, c'est des monuments, des éditions originales donc. Aussi beaucoup de dédicaces, c'est assez troublant, l'éducation sentimentale de Flaubert, mais dédicacée à Madame Bovary de Flaubert, là encore, dédicacée à Hugo, les Diaboliques de Barbet d'Orvilly, dédicacée à un autre dandy, 800. Donc chaque pièce, c'est une histoire en soi, aussi une manière de bibliophilie libertine. Très très belle bibliothèque, une bibliothèque constituée comme les aimait Borges, et ça sera à mon sens une très grande exposition. Alors si vous pouvez pas être le 11 décembre du côté de Sotheby's à Paris pour voir l'exposition et éventuellement réenchérir, vraiment c'est un site très réussi, et puis un bouquet, vraiment un catalogue qui mérite là aussi d'être en
au
bonne
moins
compagnie.
Pour le plaisir des yeux, comme on dit.
Et puis on en sort moins bête, c'est important.
Exactement. Donc sinon la vente c'est le 11 décembre chez Sotheby's pour la vente de la bibliothèque Pierre Berger. Et Pierre Berger, Yves Saint Laurent, ça m'amène à un autre créateur encore vivant. Lui, Karl Lagerfeld, qui expose son œuvre photographique carrément à la Pinacothèque de Paris. Il a déjà exposé quelques-unes de ses photos. Là, ça vient de commencer, c'est jusqu'au 20 mars. Karl Lagerfeld, A Visual Journey, des portraits de top. Évidemment, des sérigraphies, mais aussi des autoportraits. On l'avait déjà vu à la MEP, puis à Bonn. La nature, l'art, l'architecture, Paris, mais aussi toutes les techniques photographiques. Voilà, pour entrer encore une fois dans l'univers de Karl Lagerfeld.
Mais là, on l'aime bien. Hein. Quand il est sur les podiums. Et quand il est dans la photographie,
c'est ce qu'il sait le mieux faire.
Oui, quand il est, dans la sécurité routière, le Coca-Cola et les bûches de Noël, il sait plus trop où il est, monsieur.
Allez,
mais là, il est bien.
Allez, une petite info à venir côté gastronomie, Emmanuel.
Allez, oui. Là aussi, ça aura lieu, si tout va bien, fin décembre. Mais on doit en parler. C'est la renaissance d'une légende bistrotière parisienne. Nous sommes dans le quartier des Halles. Vous savez, le quartier des Halles, c'était forcément le quartier mythique du pavillon Baltard, des Forts des Halles, des Louchebem. Il y avait tout un tas de bistrots qui accompagnaient ce quartier. Ils sont en train de disparaître les uns après les autres. Il y a quelques mois, on apprenait la disparition de La Vieille, rue Bailleul. C'était fermé. Ça va réouvrir dans quelques temps. Même décor, pur jus. et orchestré par qui? Bah, le plus américain des chefs français ou vice-versa. Daniel Rose, on en a souvent parlé, c'est lui qui orchestre le Spring. Il reprend ce petit bouclard. Alors vraiment, je crois, 20 adresses, 20 couverts, pas plus. Renaissance, si tout va bien fin décembre, au mieux janvier, mais il faut déjà réserver. Dès que vous voyez sur Google le site internet ou le numéro de téléphone, appelez parce que
rue Bailleul,
comme à la grande époque, il n'y aura pas de place.
Rue Bailleul, ça s'appelle La Vieille. Je termine rapidement au DS World, donc vous savez...
côté des Champs-Élysées.
Exactement, ouais. Jusqu'au 28 novembre. Qu'est-ce qu'ils mettent à l'honneur? Le savoir-faire de la maison Fabre, la ganterie.
La ganterie Fabre,
mais oui,
bien sûr.
Vous voyez le rapport avec l'automobile quand même, un petit peu. En tout cas, avec le bureau de SILDS, ils ont imaginé des gants de conduite aussi. Mais surtout, on retrouve tout le savoir-faire qui date de 1924 au cœur de l'Aveyron, de cette manufacture. Des photos, les machines, les différentes collections. Enfin voilà, pour entrer dans un univers, on s'y attendait pas de trouver ça là. Et ben voilà, ça vous donne une occasion de retourner chez DS. Et voilà comment on fait vivre les marques entre
c'est du crossover, genre, comme disaient les Américains.
Voilà, entre gens de bonne compagnie.
De même maison.
Merci beaucoup. Emmanuel, on se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure. Oui. On parlera de James Bond, c'est promis. Restez avec nous sur BFM Business dans un instant. Good Luck, deuxième partie. Bah oui.